dans le vent, le podcast sur la culture hip-hop. Artiste, producteur, personne de l'industrie, tu sauras absolument tout dans le vent, animé par Pete Gaillard sur 11 MPL.
Comme une dédication totalement entière pour un art, Kraft, le projet de Gunn est une dévotion à quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi, qui nous dépasse. Avec comme fil rouge le couple de volcanologues Maurice et Katia Kraft qui ont donné leur vie à leur passion, cet album est une magnifique analogie et aurait pu s'appeler « Je sais que je ne sais rien » de Socrate. Se voulant un projet rap, Gunn s'est entouré de pointures locales, histoire de donner à son projet un côté irréprochable. Déjà que la thématique du projet est très bien trouvée et habilement menée par Gunn qui assure le rap et la majeure production du projet, la valeur ajoutée de ses invités y donne un côté Avengers. Mon invité est un artiste, producteur, illustrateur, mélomane. La légende dit qu'il serait un mélange entre Ian Curtis, The Alchemist et Thom Yorke. Il a réalisé des covers pour Saint-Sucré, Jason X-Mine, Mike Chab, Code Nine, je ne sais pas comment on dit, Chung, Seven Thirsty World, etc., etc. Mon invité est discret mais talentueux et ce n'est souvent pas le cas des artistes que l'on voit beaucoup au devant de la scène. On va parler de plein de choses. Gunn est dans le vent, dans le podcast sur 11 MTL. Comment ça va, man?
Ça va très bien, toi?
Ça va super. Je suis vraiment content. Comme la plupart des invités que je reçois dans le podcast, j'ai l'habitude de dire qu'on... parce que je trouve que c'est très important que je discute souvent donc avec eux pendant de longs mois, voire même des fois une année.
Mais pour nous, je pense que c'est même quelques années qu'on se suit.
C'est quelques années. Fait que ça a pris le temps que ça a pris.
Oui.
Et un tout petit peu plus proche.
Yes.
Ça a pris le temps que ça a pris pour qu'on se meet, mais enfin, on fait cet épisode. Donc, je suis vraiment content. Et donc,
le plaisir est partagé. Hein.
Bienvenue dans le podcast. Comme je pose la question à tous les invités, c'est comment... Bon, toi, on va en parler plus tard dans le podcast. Tu as eu une autre vie de musicien, plus dans la nébuleuse rock et tout, ouais, avant d'être dans le hip-hop. Mais comment tu tombes dans la musique? C'est quoi tes premiers coups de cœur? Qu'est-ce qui fait que maintenant tu fais de la musique et que tu as fait de la musique? Et quels sont les artistes ou les bands qui t'ont mis une claque jeune, en fait, pour bien situer le personnage?
Ok. Pour moi, d'aussi loin que je me souvienne, en fait, là, il y avait toujours un instrument chez les gens où on allait dans les membres de la famille. Puis je me souviens que cousins, cousines éloignés jouaient au Super Nintendo, puis il y avait un piano, puis j'ai juste allumé, un clavier électrique, ouais, j'ai juste allumé, puis do, ré, mi, do, frère Jacques, puis j'ai compris vite la mécanique des choses. Puis,
des notes.
Oui, exactement, puis c'est juste naturellement les associations de notes se faisaient très jeune.
OK.
Puis milieu primaire, pour moi, ben, le hip-hop commençait à exploser. Puis, j'aimais des trucs en air. T'es comme, Fait comme là, à un moment donné, en 96, ça me donne un album, puis c'est Fugees de Score.
Damn.
Puis elle me dit, tiens, ça, c'est du hip-hop. Puis au début, j'étais comme, c'est comme correct. Mais c'est resté avec moi jusqu'à ce jour que c'est dans mon top 10, là, ever. Là.
Incroyable,
ça. C'est ça. J'aime beaucoup la production de ça. Ça a été un de mes premiers coups de cœur. Puis, tu sais, ça reste comme ça, là. Jeunesse étant, moi, j'étais plus sur le skate, sur le break quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis c'est aussi, je viens d'une époque où est-ce que tu pouvais pas nécessairement, sans te faire bully à l'école, dabber avec le métal ou le hip-hop.
Exactement, avant, c'était des...
Moi, je viens vraiment d'un endroit où est-ce que... Puis tu sais, ce code-là, je l'ai jamais vraiment respecté. Là. Je skatais avec des Jordan, je me faisais bully à l'école parce que j'étais autant sur les débuts de System of a Down que de Slim Shady puis Marshall Mathers LP. Puis c'est pour moi, déjà très jeune, c'est comme ça me frappait parce que c'était bon, peu importe ce que c'était. Que ce soit Early Queen quand j'étais ticu ou Eminem ou...
NoFX.
NoFX, Limp Bizkit, Pennywise, whatever. Ouais. Tu sais, je me faisais des mixtapes, là, autant avec genre I Will Survive de Gloria Gaynor que genre Stand By Me de Pennywise sur la même mixtape.
Wow.
Puis, arrive le début secondaire, puis il y a des cousins qui viennent de recevoir en cadeau une bass, une git. Puis, il y a un cousin qui essayait d'apprendre le riff de Smooth Criminal version Alien Ant Farm.
Incroyable.
Puis, je sais comme, je le trouvais poche, tu sais. Puis, je l'ai un petit peu dit comme ça. Puis, il m'a juste dit, ben, si t'es si bon que ça, fais-le. Puis, j'ai juste pris la guitare, puis je l'avais regardé faire, puis j'ai joué le riff.
Wow.
Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend que ça sonnait très débutant, mais c'est déjà comme mes parents, puis ses parents sont entrés, puis c'est comme c'était moi qui étais en train de jouer, non lui qui prenait des cours. Fait que le Noël suivant, j'ai eu ma guitare. Puis, tu vois, dans ce temps-là, j'habitais à La Salle, donc dans le sud-ouest de Montréal.
Mm.
Puis, c'était l'été de mon secondaire 3, en fait. Je suis déménagé à Marieville sur la rive sud. Donc, j'ai juste perdu contact avec tous mes amis. Puis, au lieu de faire une dépression, ben, j'ai passé mon été à jouer de la guitare.
OK, donc là, t'as pris une guitare, là.
Là, j'ai pris la guitare. Puis, okay. C'était vraiment genre Randy Rhoads, Metallica, Pink Floyd, Zeppelin. D'apprendre les classiques, les rudiments, puis de te positionner là, autant qu'est-ce que c'est un rhythm guitare, qu'est-ce que c'est un lead guitare. Puis de fil en aiguille, de découvrir le blues, le jazz, puis de tout déconstruire ça en ce qui est aujourd'hui un petit peu partout. Là,
donc, ton instrument, c'était la guitare.
Mon instrument principal, c'était la guitare, jusqu'à ce que je découvre que je sais chanter.
Ouais.
So, yeah. Puis en fait, tu sais, je pense que dans mon processus musical, pas mal ce qui fait du son, si je suis capable d'entendre une mélodie, je devrais être capable d'aller la chercher là, jusqu'à une certaine limite. Comme je suis pas un joueur rapide sur une guitare, je suis pas un shredder, je suis pas rapide, mais tout ce que j'entends, je peux jouer là, pas mal. C'est, ça, c'est depuis un bout, puis ça se raffine là, de plus en plus, en fait. Là.
OK. Ouais, t'es le genre de personne qui apprend à l'oreille, là.
Ouais, mais tu sais, ouais. Je l'ai étudié aussi. Là, oui, j'ai oui, un oui, parcours oui. Académique semi, là, dans le sens où j'ai toujours voulu aller au cégep en guitare. J'étais pas bon à l'école, mais j'ai, tu sais, je veux dire, je connais ma théorie. Là, mais comme je la connais assez pour pas y penser quand, tu vois, quand je fais de la musique. Là.
Ça me fait penser à un ami d'enfance qui, à l'âge de 18 ans, il avait joué presque tout le Black Album de Metallica, puis il était comme bon, ben, next.
Non, ben c'est,
toi,
c'est,
genre,
ben,
il
c'est
avait
ça.
Appris genre toutes les parties genre de Kirk Hammett, là.
Mais tu vois, par contre, très tôt, j'ai été amené à improviser. Tu sais. Moi, je suis pas un. Genre, j'ai fait du chansonnier dans ma vie, mais c'est des covers pas
ouais,
tels quels.
Pas un cover guy.
Je m'approprie. Tu sais. Puis ça vient beaucoup de l'école du blues. Fin secondaire, justement, le secondaire 4-5, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait. Je pense que c'est les mardis soirs, là, il y avait un house band blues dans un bar. Puis mon père était mon tuteur légal, puis il m'amenait avec ma guitare aller jouer avec les gens. Donc, c'est
sérieux?
Comme, ouais,
incroyable.
Donc, tu sais, c'est ça. Il y a vraiment comme.
Jamais sur scène.
Ouais,
là.
Exact. Là, juste arriver là, puis OK, on fait un blues en l'air, OK, c'est à toi, fais le solo. Puis c'est... Wow. Donc, c'était vraiment comme.
Hey, t'avais quel âge là?
Moi, j'ai 35, j'avais 14-15, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Là.
Et puis, OK, d'accord, puis là, t'étais déjà game de genre aller sur scène, puis là, t'embarques sur une gamme de blues avec des adultes.
Ouais.
Incroyable.
C'est vraiment aussi, c'est que ça te force, en fait. C'est quelque chose que, à ce jour, tu sais, j'aime ça perdre à quelque chose parce que c'est là que t'apprends, tu sais. Si je vais jouer au billard avec quelqu'un, je veux pas jouer avec quelqu'un qui sait pas jouer. Je joue avec quelqu'un qui va me lessiver jusqu'à ce que je puisse devenir bon. Puis c'est un peu la même chose avec la musique. Je jouais à tous les jours avec mes amis à l'école. On partait des bands ou faisait les shows organisés par la polyvalente. Mais,
ou les cégeps en spectacle, les affaires de même.
Ouais, je me suis pas rendu au cégep, mais les secondaires en spectacle.
OK. Yeah.
Mais c'est ça, d'aller voir ces gens-là, des vieux routiers, là, juste de la scène blues au Québec. Puis c'est justement d'apprendre à compter un 12 bars, tu sais. Fait que c'est pas tant de... Pour moi, la progression harmonique puis d'entendre le thème mélodique, c'est ce qu'il y a de plus important que comme, OK, ben je peux jouer telle gamme ici, telle gamme là. Ça, c'est pas quelque chose auquel je pensais, tu sais. J'entends la mélodie puis je peux la chanter dans ma tête, elle va sortir dans le micro, elle va sortir de mes doigts, tu sais.
Donc, pour toi, c'était pas compliqué de jouer puis de chanter en même temps? Parce que c'est tellement compliqué pour
ça,
des gens.
Ça, c'est fucking drôle, man.
Bro, il y a tellement de gens, pour eux, c'est un but à atteindre et c'est tellement impossible pour eux. Parce que moi, j'ai fait de la bass jeune, j'ai eu un band où je jouais de la bass, puis mon rêve, c'était de chanter en jouant de la bass.
Ah, mais là, ça, c'est une autre game.
Mais
là,
c'était impossible.
C'est pas des accords, là, t'as des lignes mélodiques à faire en même temps. Donc, c'est sûr que c'est tu compartimentalises ton cerveau. Mais pour moi, c'est ça. Pour revenir, ça a été plus rapide pour moi d'être capable de jouer puis chanter que ça a été rapide pour moi de chanter. J'ai eu une voix de merde, là, mais de merde très longtemps. Puis ça, c'est venu avec The Doors puis les Beatles quand je suis devenu comme jeune adulte. Là. Parce secondaire, là, comme la voix n'était pas là, je maîtrisais pas le falsetto ou le croon. Il y avait rien qui se passait entre les deux, puis c'était pas là. Mais à cette époque-là, oui, j'étais capable de jouer et chanter en même temps. Puis c'est... quand j'étais plus jeune, ça, il y avait une annonce à Scene on TV. Là. C'est une guitare acoustique qui était vendue par Esteban. Puis ça, c'est drôle. Le film Patterson de Jim Jarmusch, il achète la guitare Esteban à sa blonde. Puis ça a l'air d'une joke, mais c'est vraiment vrai. J'ai eu cette guitare-là personnellement. Puis il t'envoyait la cassette. Puis la cassette, il montrait comment jouer House of the Rising Sun. Puis c'est là que j'ai compris que, OK, mon pic fait le rythme, les accords, puis la voix se place là. Donc, effectivement, j'ai compris la mécanique de strummer, chanter en même temps. Puis ça s'est développé quand la voix est venue. J'étais comme, OK, là, pour vrai, la voix est là. Je sais que je peux chanter, j'ai confiance. Ça doit évoluer. T'sais. Puis en fait, ça a évolué avec beaucoup avec des bandes de compo aussi. Donc,
Donc c'était quoi tes pas forcément les noms, mais dans les genres et tout, c'était quoi les... Parce que moi, je veux qu'on en vienne à Fou Fuyant, là, mais là, il y a eu toute une progression, genre avant
là, tu sais. Ouais, il y a eu plusieurs eras, en fait, tu sais.
Ouais.
Puis c'est comme, c'est plusieurs genres. Tu vas voir, tu sais, comme très jeune, ça a été justement Zeppelin, Pink Floyd.
OK.
Après ça, vient Malajube, là. Je suis comme, oh, shit.
Oh, my God.
Malajube, le loup, préférée. C'est comme, OK, tu peux composer des tunes. Tu peux, genre, avoir une identité propre à toi ou est-ce que tu synthétises. Mais là, j'étais encore un peu inexpérimenté dans le savoir encyclopédique. Là. C'est là que je suis rentré dans, justement, Lou Reed, Velvet Underground, les Beatles, après ça, les dérivés, les Pretty Things, là, tout ce qui est le British Invasions, d'aller creuser ce que les Brits ont fait, d'arriver après ça, Gainsbourg, qu'est-ce qu'il a fait avec Melody Nelson, qu'est-ce qu'il a fait avec Je suis venu te dire que je m'en vais. Tout ça a formé. Là, pour moi, pendant longtemps, c'était de synthétiser les années 60, les débuts 70. Donc, j'ai toujours voulu jouer de la musique que j'aime sampler aujourd'hui, au final. T'sais.
OK. Fait que
je m'y rends tranquillement de cette façon-là. T'sais. Puis là, après ça, je me suis mis à fonctionner beaucoup par triptyque, donc, comme la trilogie de Bowie à Berlin. Donc, qui donne aussi The Idiot de Iggy Pop, qui est l'album sur lequel Ian Curtis s'est pendu, qui est le post-punk. Donc, tu sais, c'est de faire l'espèce d'arbre généalogique de la culture.
Non, ça marche plus.
Ah, tu m'entends?
Ah. Ouais, vas-y.
Yes.
OK, vas-y. Si jamais ça marche pas, on prendra un autre
câble. Il n'y a pas de stress. Donc, ça a coupé à quel endroit?
Ça a coupé à Ian Curtis.
OK, donc c'est ça, d'embarquer dans... Il y a beaucoup de triptyques dans ma vie. Donc, exemple, c'est ça, les trois albums à Berlin qui donnent aussi The Idiot, mais qui, en fait, ça aussi, t'as Brian Eno qui arrive dans le portrait, t'as Ian Curtis avec le folklore, t'as le post-punk, t'as l'ambiant. Donc, c'est vraiment de me promener comme ça, après ça, de joindre des groupes. En fait, j'étais dans un groupe très ado, dans la passe Beatles, qui était Alex et les Droogies, qui est devenu Faux Fuyant par la suite.
OK, d'accord.
Puis, entre ça, il y a eu Artifice Palace, que j'ai rencontré, en fait. j'ai rencontré deux des membres en faisant l'école de la chanson à Granby, en fait.
OK.
Donc, j'ai gradué en 2011 ou 12 de l'école nationale de la chanson à Granby. Puis c'est là que j'ai rencontré ça, des gens avec qui je me suis mis à jouer plus sérieusement dans des groupes.
Faux fuyant, ben là, tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, fait que je me suis mis dedans, là. Moi, j'ai adoré ça.
Ben, merci.
Vraiment, j'ai adoré ça. Il y a un espèce de côté cold wave, post-punk, justement très, très proche de l'univers, en fait, de Ian Curtis et tout. Et voix, bien sûr, méconnaissable par rapport à ce que tu peux faire en rap, là.
T'sais, je veux dire.
Comme j'aurais jamais imaginé que c'est toi, que c'est la même personne, tu vois.
Ouais, je comprends.
Donc, faux fuyant, avec là aussi où j'étais super étonné, mais en même temps, ça m'étonne pas, Ryan Morey qui masterise.
Ouais, ouais.
Pour moi, Ryan Morey, c'est un nom montréalais. Je sais pas si vous connaissez Ryan Morey, mais...
Yes. Ben, en fait, c'est ça. Oui, c'était un prof de mastering à Muse Technique.
Ouais.
Puis aussi, il était...
Puis genre, il a fait Godspeed, il a fait...
Ouais, exact. Et puis, il a fait Lassa, il a fait...
Arcade Fire.
Exact, exact. C'est... Puis oui, puis Didier Bergeron, en fait,
oui.
qui est l'ingénieur. En fait, c'est un ami depuis... Un peu avant, j'ai joué avec Aurore Juin,
ouais.
Qui est une artiste visuelle à Montréal, qui avait un projet de musique. Une artiste incroyable, en fait. Là.
Mm.
Puis j'ai joué la guide sur cet album-là, puis c'est là que j'ai rencontré Didier, qui a fait la réale. Puis après ça, on a décidé de travailler ensemble, justement, là, sur Faux Fuyant. Puis Faux Fuyant, tu vois, c'est ça. C'était des amis d'enfance. On arrivait dans un local, j'arrivais avec mon cahier. On se pluguait puis on écrivait on the spot. Là. C'était pas. Wow. J'ai avant Gun, là, j'ai pas connu ça, écrire des tunes tout seul de mon bar chez nous. Là.
Okay.
C'était vraiment, on écrivait en band, puis l'album est recordé live. Là.
On a deux albums, ouais.
Faux Fuyant.
Ouais.
Non, je pense qu'il y a un album. On a fait. On a fait
sur Bandcamp, il y en a deux.
Ça se peut-tu qu'il y a un single? Parce que, me semble, on a sorti un single puis l'album de 11 tunes.
Un 888.
1-800-DENIAL.
Ouais, c'est ça, mais avant, je pense qu'il y a quelque chose. Bah, c'est peut-être un single.
Yeah,
ouais.
Parce que d'après moi, oui.
Ouais, c'est peut-être
ça,
un single.
C'est vraiment, ça a duré. On a recordé l'album. C'est sorti en 2017. On a fait quelques shows.
Oui.
La pandémie a hit. Là. Puis c'est ça, c'est en fait. C'est encore de bons amis à moi. C'est juste qu'il y a deux frères dans le groupe qui ont parti leur label de cassettes, de musique ambiante, qui s'appelle Florina Cassette.
Okay.
Donc, c'est ça. On était juste vraiment tous ailleurs. Puis ça s'est fait. Là, on est mort de notre belle mort, là, comme on peut dire. Ça.
Mais est-ce qu'avec Faux Fuyant, il y avait une ambition peut-être de faire des tournées? Ou alors est-ce qu'il y a eu des tournées? Ou est-ce qu'il y avait un but de tu sais, faire ça semi-professionnellement ou professionnellement?
Oui, mais je pense vraiment que c'est difficile en fait là, de pousser une idée au même endroit avec quatre têtes. C'était vraiment, c'est quelque chose que ça devait faire l'unanimité. T'sais. Il n'y avait pas de leader à proprement dit. C'était notre projet ensemble. Puis pour plusieurs raisons, un des membres qui est devenu parent à la, fin du groupe, le fait qu'on jammait le vendredi à 10h le soir, on faisait ce qu'on pouvait.
Ouais.
Oui, on aurait aimé ça que ça se passe, mais pas vraiment. C'est pas avec Faux Fuyant que j'ai connu ce que c'était de la tournée.
D'accord, OK.
Mais avec le drummer, on était dans un groupe qui s'appelait Pool Boy.
OK.
C'était le groupe de Oussama Lagzaoui. C'était le chanteur, puis lui, il est devenu manager. C'est lui qui est gérant de Corridor en ce moment-là.
Oh, si OK, abuse. Oui. Super Corridor, super Ben.
Ouais, incroyable.
Ouais, super Ben Corridor.
On a partagé la scène avec eux, avec l'entité Pool Boy. On a fait le dernier CMJ à New York.
Ah ouais?
Ça, c'était fucking cool. Mais c'est ça. Ça, c'est là que j'ai... En fait, Pool Boy, c'est la naissance de mon identité guitaristique.
Très important.
Vraiment.
Ça.
Avant Faux Fuyant, là, c'est qu'on jammait. Puis comme je te disais, je venais d'une école très clean, très rudimentaire, très comme toute placée. Puis je sortais de l'école aussi de Granby, donc très, très, très académisé dans mon écriture de tunes. C'est comme ce que je faisais à cette époque-là, ce serait une version de moi qui cherchait trop à plaire à un standard actuel. Puis là, avec Pool Boy, on avait des pratiques à n'en plus finir. Puis on s'améliorait sans cesse. C'était des musiciens incroyables. Puis venu le temps d'enregistrer au studio Victor notre single, je te partagerai bien. Là.
Okay.
On a enregistré avec Francis Major, justement, qui est sound guy pour Charlotte Cardin.
Wow! Shout out.
Puis, ouais, gros shout out. Gros gars, là. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait énormément. Puis tu vois, ça, je devais enregistrer un solo de git, puis je le mets entre guillemets parce que moi, j'avais une conception d'un solo de git comme étant un solo de git. Puis la seule façon que j'ai compris ce qu'ils voulaient, c'est quand ils se sont mis à me dire « butch ». Genre, fait exprès pour « fuck it up ». Puis là, c'est ça. Là. C'est là que j'avais la Jazz Master, puis que j'ai juste mis la whammy bar dans ma main, puis je me suis mis à juste faire « je connais les codes, mais il n'y a pas de règles
».
Puis c'est là que les tones se sont mis à sortir, que je me suis mis à incorporer des pédales, des noises, des effets, des accords plus particuliers. Okay. Les couleurs, mettons. Je suis passé de quelqu'un qui jouait, mettons, un peu à la Buddy Guy à quelqu'un qui joue comme Marc Ribot, là, guitariste sur les Tom Waits. Là, d'apporter les dissonances, les silences, les espaces, de prendre la bonne place. Donc, au lieu d'être technique, d'être le gars là qui est l'élève, qui écoute, qui répond.
Ouais. OK. Je veux qu'on en vienne après à That Place Between Asleep and Awake. Donc, donc, dans toute cette période-là, rock, musicien et tout, tu écoutais quand même du rap puis du hip-hop.
Ouais. Ça s'était perdu, mettons, après le primaire.
OK.
Moi, je l'ai retrouvé avec Doris d'Earl Sweatshirt.
OK.
Comme le gars, il arrive, il a, je pense, 22 ans quand il sort Doris. Il est là, même ma grand-mère est en train de mourir, but I'm too busy trying to make this album, cracking the sea. Puis genre, le gars, il se raconte, là, il sort ses trips, là, tu sais, ou juste la track Chum. Puis c'est là que je découvre, là, OK, man, il n'y a pas juste du auto-tune trap, que shout-out à eux, mais c'est juste pas mon truc, là. Ouais. C'est quelque chose qui ne me parlait pas à moi. Puis là, c'est là que j'ai redécouvert les MC, que j'ai été interpellé, puis oui, effectivement, le rap, mais aussi Frank Ocean. Beaucoup, grosse influence sur ce que j'aime du producing. Là.
Donc, le 6 novembre 2020, donc on est en pleine pandémie, tu sors That Place Between Asleep and Awake, sur lesquelles j'ai des chansons vraiment que j'adore, notamment Ciel Rose.
Yes.
Capoté, cette chanson-là.
Incroyable. Ouais, merci.
Vraiment.
Ça, donc, c'est une petite histoire particulière en plus. Là. Ouais. C'est un de mes amis qui est décédé l'été passé. Ouais. Son nom est Jamie Caz.
OK.
Lui, je faisais des prods pour lui. J'ai fait « Le ciel va tomber » sur son dernier album.
Ouais.
Puis c'est lui qui m'a demandé « Je veux que tu me fasses un beat qui sonne comme un ciel rose, man. »
Ouais.
Puis c'était une époque où est-ce que je mixais vraiment pas tant bien. Moi, quand j'entends l'idée, je sais que ça va être nice mixé. J'ai envoyé la maquette, il l'a pas pris. J'ai écrit Ciel Rose.
Ouais, wow.
Fait que c'est vraiment l'histoire de ça. Puis c'est effectivement Ciel Rose, c'est l'influence de Frank Ocean, là, justement. Là.
Ouais. Donc on est en pleine pandémie. Et donc là, tu sors cet album-là.
Yeah.
Et donc là, c'est Gone is Born.
Ouais, exact. OK. Exact. Okay. Puis toute cette période-là, on a eu un premier Noël confiné.
Exact.
Non, moi, ma blonde est anglophone.
OK.
Famille anglophone qui va à l'école en français. Puis il y a une des nièces qui est avec sa grand-mère qui dit qu'elle veut faire une carte pour John. So, elle dit, écrit J-O-H-N. Elle a écrit J-O-H-N. Parce que le J et le G s'interfère avec l'anglais et le français.
Incroyable.
Puis j'ai reçu la carte, j'étais genre « wow, that's it ». Puis comme pour moi, ça fait tellement comme l'idée qu'il y a le bilinguisme, qu'il y a le franglais.
La phonétique aussi.
La phonétique, comme l'identité était montréalaise. L'identité aussi, c'est le droit d'explorer, d'être un enfant, de pouvoir me péter la gueule. Tu sais, Gone, pour moi, c'est les visuels aussi.
Ouais.
C'est les animations, c'est tout. Mais oui, effectivement, c'est à cette période-là que les balbutiements sont nés. C'est à la même époque où est-ce que justement j'avais une Jazzmaster, puis je l'ai échangé contre une MPC. J'ai okay. commencé à produce. Puis c'est ça, on avait pas encore notre maison. On habitait en condo, puis c'était loft. Puis on n'avait pas l'espace pour que je puisse avoir un espace de travail.
Ouais.
Fait que j'ai pris notre cabanon, notre shed. J'ai tout rangé. J'ai mis une table, j'ai mis mon laptop, des speakers. Puis j'ai tout enregistré dans un cabanon avec une Scarlett.
Puis t'as barré le haut, genre, pour un effet stylistique, genre?
Ouais, je t'avoue que c'est un peu comme un meuble IKEA. Là.
Ça, c'est le côté un petit peu vibe. Genre...
Oui, le côté
aussi... genre.
Ouais, ou le côté aussi, genre... dans cette période-là, j'aimais beaucoup Def Heaven,
oui!
qui m'a fait into tout ce qui est scandinave, tout ce qui est le black metal.
Ouais.
Puis drôlement, même si je ne fais pas du tout du black metal, il y a des codes.
Moi, j'adore ça.
Moi aussi, ouais, vraiment. Ouais, ouais, là, ouais. Puis il y a des codes là, que je m'approprie, en fait. Ouais, puis c'est un petit peu ça. Là. C'est, je fais ce que je veux. T'sais. J'ai des démos... de trucs plus métal, mais je suis vraiment pas là-dedans.
Donc cet album-là, tu le sors en novembre, mais tu commences à travailler quand dessus?
Je l'ai fait tout l'hiver, en fait. Là.
OK, c'est ça.
C'est un truc un peu bon hiver type shit. Là,
mars 2020, là, on rentre dans la pandémie. Là. Ben, en fait, on rentre en...
Ouais,
en...
c'est ça. Puis moi, j'étais en arrêt de travail à cette époque-là.
Confinement,
donc,
là.
On était confinés, j'étais en arrêt de travail. C'est une période vraiment deep. Puis ouais. C'est vrai, c'est avant que je me mette là, comme dans les deux dernières années à travailler non-stop. Okay. Ça, c'était le premier stretch de genre qui je veux écrire des tunes. Puis il y a une couple de shit qui se passait. Justement, genre, un peu avant la pandémie, j'ai perdu mon frère, comme dans Tuition, là, When My Oldest Brother Died, The Other Laughed, okay. Who the fuck's gonna cry on my mother's lap. Donc, c'était une façon pour moi de parler de ces choses-là ou de cette. De ce qui m'habitait, si tu veux. Là,
okay.
C'était les débuts, effectivement, puis ça a été composé par moi-même dans un cabanon. Là.
Incroyable. En tout cas, incroyable album.
Merci.
Vraiment.
C'est encore ouais. Didier Bergeron ouais. qui a fait la magie finale.
Puis, beau cover avec la petite table et puis les yeah. deux chaises au milieu du jardin. Là,
Ouais. Ça, c'était chez mes parents quand j'étais ado. Là. C'était,
OK, c'est une vieille photo que tu as reprise. Yeah, incroyable. Exact. OK, super. 2021, tu sors rien?
Non, mais il me semble que non. À moins que je... Offrande peut-être en 2022, ça se peut-tu?
Ouais, c'est ça. Mais là, 2022, grosse année. Tu sors Homo Homini Lupus avec yes. Dosti et puis Offrande. C'est vraiment une année genre où tu as yes. été super productif, genre.
Ouais, c'est les débuts aussi de je commençais à trouver mon son pas mal, tu vois. Il n'y a pas trop de beatmaking avec la MPC sur That Place Between a Sleep and Awake.
Ouais.
Ça, c'est beaucoup du Logic. Puis là, tu vois, Homo Homini Lupus, je commençais, mais c'est vraiment là, c'est là que moi et Dusty, on a vraiment plus connecté. On avait travaillé dans le passé, on a produce ensemble pour un ami là, qui s'appelle Zenois. Puis, en fait, on a coproduit deux albums pour lui. C'est là qu'on a trouvé notre chimie. Puis, pour moi, avant, c'était jouer de la guitare sur les beats à Dusty où je faisais les hooks pour des tracks de rap.
Ouais. Je
touchais
ouais.
pas à la production.
Ouais, ouais.
Puis sur Homo Homini, là, c'est vraiment coprod. Là,
ah ouais, mais là, genre Homo Homini, c'est... Moi, c'est comme à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que je tombe dans du, je sais pas, genre dans du Cypress Hill Holidays, tu vois.
C'est flavor boom bap là. C'est,
ouais,
vraiment.
Puis cet album-là, il est sorti 5 mois après That Place Between. Fait qu'il y a eu vraiment une sur-créativité, genre.
On pourrait dire
ouais,
ça.
Ouais,
vraiment.
Ouais.
C'est sûr que c'est en toute franchise, moi j'ai arrêté de consommer en septembre 2022, là, alcool et drogue.
Ouais.
Fait que pour moi, c'était That Place Between a Sleep and Awake, like. J'ai pas trop de souvenirs.
Ouais.
Homo Homini, c'était les débuts là, justement.
Ouais.
Pour moi, ce que je retiens, c'est là que j'ai commencé à faire des beats qui se tenaient. Parce que si tu compares, mettons, Homo Homini et Offrande,
ouais.
Ben Offrande, tu entends quelque chose. Ça me fait penser à une version beatmaker de ce que John Frusciante aurait fait.
Oh, tellement.
Comme il y a quelque chose de très inégal. Ça. Mais tu vois, il y a des prods comme Bardo dessus, qui est dans mes premiers trucs drumless à part sur Homo Homini. Je pense que c'est Profil Bas qui est un drumless. Mais oui, c'est ça. L'identité commence à se forger à ce moment-là, tu vois. Puis la pochette d'Offrande, justement, c'est ça le cabanon dans lequel j'ai enregistré That Place Between Us.
OK. Et puis le feu, en fait, qu'est-ce que c'est?
C'est une haie de cèdre qui sépare les cabanons et une maison. C'est la maison qui est en feu, l'autre bord de la haie de cèdre.
Incroyable.
Donc, on était l'été, puis j'étais comme, Chris, fait donc bien clair chez nous. Oh. Puis là, je me lève, puis je vois ça. Donc, je l'ai juste pris en photo. Puis c'est devenu incroyable. La pochette.
Là, j'ai aussi vraiment des gros coups de cœur. Mood, Death for One's Mind, Four Mars.
Yes.
Vraiment. Puis là, c'est un plus gros long jeu. Là, c'est quand même 12 titres. Là.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment une beat tape. Ouais, là, c'est vraiment ça, pour moi, c'était le début de ce qui est aujourd'hui les beat dumps que je vais faire sur mon Instagram.
Ouais. Bref, moi, je me suis pris tous ces albums-là et tu sais, parce que jusqu'à qu'on parle beaucoup, moi, je te connaissais vraiment plus comme illustrateur, tu vois.
Ouais.
Et puis, tu m'avais parlé de Kraft, en fait, genre, qui allait sortir. Puis, c'est quand même cool d'aller chercher Kraft, puis de se prendre une grosse claque derrière la nuque, puis de dire, putain, ouais, il y a eu des putains de bons projets avant, quoi, tu sais,
Ouais, ben merci. Puis c'est sûr que pour moi, c'est difficile de tu vois, même Homo Homini Lupus, en toute transparence, c'est plus supposé être sur les plateformes,
t'sais. OK.
Puis, tu sais, pour moi, je suis vraiment fier de la prod. Je suis vraiment fier de... Ça initie, là, en fait, là, les collabs avec Dusty. C'est mon bro, là. On vient de finir un projet ensemble que je produis, puis lui, il rappe. Donc, moi, je rapperai pas du tout dessus, tu sais. Puis, tu vois, on a sorti une cuvée de chalet récemment, là, la cuvée Bromont.
OK.
Donc, c'est pour moi, c'est les premiers... Premier vrai pas là, dans mon identité sur le rap. T'sais.
D'accord.
C'est-à-dire que la plume en anglais, je me sens pas nécessairement sur mon X encore. Mais oui, il y a un terrain qui est en train de se trouver. Définitivement, ouais. Je suis là avec la machette puis je coupe les haies là, pour, pour faire mon chemin. Définitivement, de moins en moins perdu là, à partir de That Place. Jusqu'à aujourd'hui. Là.
2024, tu sors deux projets. Début d'année, il y a aussi l'excellent Regulators. C'est comme ça qu'on le prononce.
Yes, gros shout-out à Regulators.
Et avec 740.
Yes.
Et bien sûr, Kraft. Et comme tu l'expliques, en fait, dans le petit texte qu'il y a sous cet album-là, Kraft, ça mûrit depuis des années avant que tu le sortes. Donc, est-ce que pendant les projets précédents, tu mûrissais déjà Kraft? Comme par exemple 2022, 2023, tu pensais déjà à Kraft? Parce que dans le petit texte que tu as écrit sur Bandcamp, en fait, quand tu présentes Kraft, tu dis que c'est vraiment le résultat de plusieurs années de réflexion.
Ouais, définitivement. Ouais.
C'est pas quelque chose que tu as fait, genre, là, comme ça, tu t'es dit, genre, janvier 2024, OK, je fais un album.
Non, pas du tout.
Avec la thématique, genre, des volcanologues. Moi, qui m'a tellement ému, man, ce couple-là, mais, tu sais, mon...
Ah ouais, c'est puissant, là.
Ouais, ça m'a ému, là, sérieux.
Mais moi, je sais pas à quel point c'était supposé être un album de rap, pour être franc, là.
Ouais.
C'est, tu sais... Moi, dans la vie, j'aime produce. Tu sais, justement, on parle de ces deux projets-là qui sont complets, mais tu vois aussi là, la prod que j'ai faite pour Flower sur Octobre. Tu sais, puis c'est comme, j'aime ça aussi. Exemple, Flower qui vient d'un milieu battle rap, tu sais, puis qui peut assumer des flows puis des dégaines que moi, je peux pas là, sur un mic. Tu sais. Puis en fait, j'ai commencé à écrire parce que je voulais mieux comprendre les rappers avec qui je travaillais, tu sais.
Ouais.
C'est comme si c'était une mécanique que oui, je suis capable de jouer des rythmes, je suis capable de jouer des instruments sur des beats, mais je comprenais pas nécessairement, tu sais, puis comme même en toute franchise, ça va prendre plusieurs écoutes pour moi avant que j'écoute un texte. Je vais écouter le flow, je vais écouter l'instru, puis si ça me hit là, je vais m'attarder à ce qui est dit, tu sais.
Okay.
Puis c'est ça, à force de ressentir, j'ai décidé d'investiguer ce que c'était que d'écrire des raps. Puis c'est là que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de mes lyrics chantés que « Oh, j'ai peut-être tourné les coins ronds ou pas réécrit parce que la mélodie était fucking puissante. » Mm. Donc, tu peux pas faire ça quand tu rappes.
Ouais, ouais.
Puis, ça a donné que j'ai juste stacké les idées, Puis, à un moment donné, je fais « OK, j'en tasse. » J'en avais 16, ça fait 8 tracks. J'ai tassé 8 tracks, tu sais, puis j'ai comme dessiné le tout. Puis après ça, je suis allé voir les gens, tu sais.
Puis la première tune de Kraft, c'est toi qui commence. C'est la première personne qu'on entend. Et,
ouais,
t'sais.
Ouais, puis c'est ça, tu vois, pour moi, les feats, c'est les gens, des gens que j'estime énormément,
ouais.
C'est mes mentors, mais mon premier verse, je le drop sur le beat de mon neveu, qui est quelqu'un à qui aussi, tu sais, il faisait des beats avant que je le connaisse, mais là, il s'est pris une MPC, puis on se partage beaucoup, je l'aide avec ça, puis... c'est vraiment, vraiment nice d'avoir cette espèce de full circle-là, d'être inspiré et d'être inspirant dans la vie.
Qu'est-ce qui t'a inspiré justement dans l'histoire de Maurice et de Katia Kraft pour cet album-là? Puis moi, je le répète, ça m'a vraiment ému parce que après, en fait, grâce à ton album, j'ai été voir des documentaires sur eux, en fait. Puis le sample que tu as mis à un moment donné, qui est dans l'album, qui est au milieu de l'album.
Ouais, sur Katia.
C'est ça, où en fait, elle dit que mourir n'est pas grave. Tu sais?
Non, que ça va être fabuleux, même si elle meurt comme elle l'entend, tu sais.
J'avais envie de pleurer, en fait. Ouais, sérieux, c'est genre pour vrai, bro. Ça m'a fucking ému, genre, tu sais.
Ben, je suis content que ça ait cet effet-là, tu sais. C'est que pour moi aussi, c'est... Justement, dans le petit texte sur le Bandcamp, c'est un espèce de la tête sortie de mon propre cul pour la sortir de l'eau après.
C'est ça.
Il y a vraiment, tu sais, je veux dire, de vouloir vivre de sa musique, tu rencontres des situations où est-ce que tu vas être porté à socialement consommer ou à consommer pour te dire que tu es inspiré, pour te dire que tu vas ailleurs. Ouais. C'est correct, il y a des gens qui ont ce chemin-là. Moi, c'est en train de me détruire. C'est que c'est en train de me détruire moi, mais ma famille aussi. Comme, au final, c'est que tu te rends pas compte de ce que tu bâtis. Puis quand la sobriété est venue, c'est là pour moi que, en fait, mettre la main à la pâte, que mes bottines suivent mes babines, c'est devenu important. Puis c'est vraiment...
Moi, je te comprends. Je ne consomme pas. Je bois presque plus d'alcool aussi. Donc, je suis dans ce truc de genre...
Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui peuvent le supporter, puis c'est pas tant un jugement, c'est que pour moi, je suis un addict. Donc je peux pas, je peux juste pas, tu sais, il y a pas de un petit peu, c'est tout ou rien avec
d'accord.
ça. Okay. Puis c'est qu'en arrêtant ça, c'est que j'ai réalisé que il y a une dizaine d'années où est-ce que j'ai pas tant fait des choix autres que celui de Frey, tu sais. Puis là, c'est comme, yo, j'ai ma famille, je bâtis quelque chose, je peux respecter mes valeurs, je peux être à côté sur celle-ci, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de parler de mes peurs. Donc, au lieu d'être dans une éruption que j'ai pas choisie, ben, c'est de choisir qu'est-ce qui va bouillir, tu sais. Puis c'est un petit peu ça, au final, c'est qu'on va, on va tous y passer à un moment donné. J'ai juste pas envie de regretter ou de me dire « Ah, j'aurais dû faire ça. » C'est vraiment comme... Ben, je veux créer au quotidien. Je veux aimer au quotidien. Je veux choisir les choses au lieu d'avoir des mauvaises habitudes, de fuir qu'est-ce que je ressens.
Ouais.
C'est un petit peu ça.
C'est pour ça que j'avais l'impression, puis peut-être que je me trompe encore, hein, mais j'avais l'impression que Kraft... C'était comme si tu fermais un livre, non? Comme si tu fermais un chapitre.
Probablement, hein? Probablement. Puis en même temps aussi, oui, ça ferme un chapitre, mais ça ouvre une porte. Comme j'ai découvert une approche à l'écriture que j'avais pas eue avant. T'sais.
Ouais.
Puis c'est pas pour dénigrer. C'est ce que j'ai fait avec Faux Fuyant. J'en suis très fier. Il y a des beaux thèmes, des belles mélodies, des beaux textes. Mais j'ai pas l'impression... J'ai l'impression de jouer un rôle. Tandis que là, ce que j'aime, c'est le contraste, justement, d'être solitaire, faire mes trucs de mon côté. Ma page, ça se passe sur Instagram. Je vais dans des événements, les gens commence à peine à savoir je suis qui visuellement. Ouais. Donc, j'ai cette posture-là où je peux être vulnérable et te parler de moi. Mmh.
Mais les textes sur Kraft, si on parle des anciens albums et tout, j'ai l'impression que c'est plus assumé.
Ouais, vraiment, ben c'est que je te parle de moi. Ouais, ouais, c'est ouais, comme. Ouais. Je m'ennuie de la voix de mon père qui s'ennuie de ma voix dans le mic parce que je fais pas de show depuis des années. Puis ouais. Mon père, il a eu un cancer, il a perdu la voix, il l'a retrouvé. Donc, ouais. C'était une période où je voulais juste entendre sa voix, je voulais être réconforté. T'sais.
Bien sûr.
C'est pas pour le spotlight que je fight, je fuck avec le underdog life. T'sais, des trucs comme ça, c'est justement, c'est pas pour te montrer de braguer. Puis si tu vois, c'est qu'il y a quelque chose de. La fragilité est en train de s'effacer dans l'album. T'sais.
Exactement.
La fragilité. Puis surtout, mettons Apollinaire, ça part de justement là, comme. Un espèce de dude qui dérape, puis comme ah non, mais je sais, j'étais un génialité, je veux mourir comme Johnny, puis comme là, pouf, hein, ouais. On va enough with the sub story, puis après ça, là, à la fin, là, c'est I'm here, I'm there, I'm fucking everywhere, puis c'est comme, c'est pas pour te dire je suis dans ta face, puis je m'en viens après toi, c'est yo, j'ai soif, moi je veux exister artistiquement, j'ai ce besoin-là, puis j'ouvre juste la porte à justement comme. Yo, brillons ensemble. C'est un peu ce que la fin de cet album-là dit.
Puis t'as conscience qu'il y a plus grand que toi, qu'il y a plus...
Ben oui. Ouais. Puis c'est que si on n'est pas conscient de ça, pourquoi est-ce qu'on crée?
T'sais? Mais ça manque dans le rap, man.
Ça
manque dans le rap. Là, t'as l'impression que tous les mecs sont en haut des pyramides, quoi.
Mais c'est qu'il faut pas oublier...
Puis ça me fait chier, tu sais.
Mais en même temps, c'est qu'il y a une différence pour moi entre... la partie où tu deviens entertainer, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas.
Ouais.
Tu sais, c'est comme peut-être une session live pour Gunn, peut-être des petits shows intimes, là, NPR vibe, mais comme moi, sérieux, là, un show de bar un dimanche soir là, avec 4 personnes, là, puis genre, t'es payé en billet de consommation, puis ça te coûte plus cher y aller puis revenir. Puis comme puis ça hypothèque ta semaine, je veux dire, honnêtement, been there, done that.
Ouais.
Puis c'est comme, c'est pas parce que je pense que je serais pas bon. Là. Je sais que j'aurais quelque chose à donner à du live. C'est trop un grand investissement pour ce que ça rapporte. Puis je préfère donner mes mains. Comme tu vois justement Flower dont je parlais tantôt, gros shout-out.
Ouais.
Ben, on verra ce que ça donne, mais il s'est inscrit au Francouverte. Puis s'il ouais. va, ben, ça va être moi sur la guide. Donc, je ne suis pas fermé à l'idée.
Mais,
de...
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, je suis parti en tournée 5 fois. J'ai été dans des scènes locales à Montréal, en France aussi. Fait que, je vois très, très bien ce que tu veux dire, quoi, le been there, done that.
Ouais, ben, puis tu sais, pour vrai, c'est parce que c'est clairement. Ça. J'ai une stabilité en ce moment aussi. Je suis là, comme je te disais, tu sais, moi, je travaille de la maison à temps plein. J'ai mon spot, j'ai mes affaires, je crée mon univers. Puis c'est pas que c'est juste pour moi, là. Si tu regardes, tu sais, je veux dire, tu l'as mentionné dans l'intro, mais c'est ça, les... C'est, ça va de Détrac à Chab, à Saint-Sucré, à...
L'Opéchi.
C'est ça, ouais. L'Opéchi. Tu sais, gros shout-out à ouais, tout ben le oui, monde. Ben là, oui, c'est vraiment aussi 730 oui. avec Regulators.
Clairement.
Il y a plein de gens tu sais, qui sont là pour me donner mes props aussi. Tu sais. Dernièrement, j'ai fait la pochette pour God Fahim, les deux pochettes avec Craven. Tu sais. Gros shout-out. Là.
Ouais.
Craven, je veux dire... C'est quelqu'un que je vais supporter no matter what. Puis c'est comme... Je pense pas être artistiquement comme lui. On est des contemporains, puis je pense qu'il y a un respect qui est immense. Là. Puis ce que ce gars-là et Chab et tous les gens qu'on vient de nommer sont en train de faire, mais sont juste en train de pousser une culture.
Non, mais ils sont naturellement sympas. Moi, c'est des gens qui me donnent du love aussi, genre pour ce que je fais, quoi. Ils sont naturels, puis ils sont gentils, quoi. Ils sont fondamentalement bons, tu vois?
Oui, exact. Puis, ouais. Tu sais, c'est particulier pour moi d'avoir une espèce de 17 ans de participer à plusieurs scènes, plusieurs mouvements. Puis, premièrement, tu sais, faute d'avoir assumé mon identité pendant une période, mais tu sais, j'ai jamais autant reçu les props qu'aujourd'hui. Puis, tu sais, je sors presque jamais de chez nous, là. Mm. Puis c'est fucked up, là, mon homme, là. C'est écoute, je pense semaine passée ou semaine d'avant, je me réveille 5h30 puis j'ai fucking Vinny Paz dans mes DM qui est genre « Bro, tes beats sont nice, tes artworks sont incroyables.
Wow. »
C'est juste comme...
Sérieux?
Yo, j'ai jamais parlé à ce gars-là, puis ce gars-là, qui est quelqu'un que j'ai grandi en écoutant, là, une légende, puis une encyclopédie, là,
légende.
Qui vient juste faire hey, « shout-out », tu sais. Puis c'est comme « Hey, pour une fois que j'essaie pas de payer mon loyer avec ça, que je suis pas en train de, genre, d'être toxique avec les gens autour parce que je suis trop une marde, tu sais. »
C'est légendaire.
Puis c'est comme « Je fais juste mon shit, je fais ce que je ressens, je réponds à l'appel, puis les gens sont là pour y répondre. » Comme honnêtement, je peux pas être plus reconnaissant, tu sais. Puis je m'attends pas à ce que les gens aiment tout ce que je fais, tu sais. Comme par exemple d'arriver dans une scène avec les raps que je présente, je sais que je suis pas le même personnage que plusieurs rappers qui, tu sais, par exemple, je sais pas moi, Skywalker, tu sais, qui est gros shout-out, qui est une de mes plumes favorites en français / franglais. Mais j'ai pas le même lingo, j'ai pas les mêmes thèmes, je vais pas aux mêmes endroits non plus, tu sais, puis je comprends que ces gens-là vont aimer mes beats sans nécessairement fuck avec mes raps, tu sais, puis je m'en fous un peu, tu sais, je fais pas ça pour me faire aimer tant que pour exister artistiquement, tu sais. À la base, c'est ça mon but, tu sais. Après ça, oui, ça va m'amener à travailler avec des gens que j'estime et qui m'estiment. T'sais.
Bien sûr. L'illustration, c'est arrivé quand?
Depuis le premier cours d'école avec un cahier Canada vide. Pour ah ouais? Man. C'est depuis que je suis kid, là, je dessine. Mais encore pandémie, je te dirais que j'étais comme « OK, ben je vais pick up, je vais m'acheter un kit de feutre, puis j'ai recommencé à dessiner régulièrement. » Puis le digital est arrivé dans les deux dernières années parce que ben je pognais des contrats, puis tout illustrateur ou graphiste sait que quand on dit que t'as carte blanche jusqu'à temps que tu donnes le premier jet. Là.
Exact. Puis la V1.
Ouais, la V1 d'une toile que ça prend 4 heures faire une V2 parce qu'il faut que t'enlèves les détails, je me suis tanné. Là, fait que,
ouais, c'est clair. Okay.
Donc voilà.
Et comment c'est venu le fait de proposer ça? Bah, peut-être pas proposer ça genre à des artistes, mais qu'il y ait des artistes comme Saint-Sucré ou Chab, peut-être qui tombent dessus et que tu finisses par faire des pochettes d'albums. Puis il y a d'autres gens, hein. Il n'y a pas que, je les ai cités aussi, Jason X-Man, Code 9, c'est ça?
Ouais, Code 9 qui est...
Chung, magnifique aussi.
Ouais, ça, c'était pas un cover d'album. Par contre, ça, c'était un remix contest que j'ai décidé de faire deux artworks avec. Mais écoute, la porte est ouverte. Là.
Ouais. Chung, j'adore Chung.
Code 9, ça aussi, là, c'était... Honnêtement, pour mettons, Code 9, puis ce qui va être STNAC et tout, c'est j'ai acheté sur Goodfellas un album de STNAC produit par Crucial de Guillotine. J'ai juste écrit à Crucial comme « Yo, this album is very fucking good. » Puis on a commencé à suivre puis à jaser.
Mm.
Puis à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai fait un cover pour un single de Nakman Thanos, un remix, etc. Puis là, c'est Mini Mansions que s'ils ont besoin de mes services, je suis là. Puis ça se passe vraiment comme ça avec Saint aussi. En fait, je faisais des œuvres, puis la première pochette que j'ai faite pour Saint, c'est Olivia.
Ouais.
Puis c'est un livre que j'avais sur l'histoire de Hollywood. Puis c'est, en fait, c'était une pochette de film que j'ai juste pris des marqueurs, puis que j'ai fait un artwork pour Saint. Je l'ai pris en photo, j'y ai envoyé. J'y ai donné le piece original. Puis de fil en aiguille, on a juste continué à travailler.
Il y avait aussi une belle peinture que tu avais fait pour Chab, que tu l'avais remis aussi.
Ouais.
C'est
puis
magnifique.
Comme pour Saint aussi, la pochette grosse canette, petite vessie, c'est un tableau aussi. Puis c'est vraiment, c'est que c'est des attentions que ces gens-là artistiquement me challenge juste à faire de quoi de bon et de quoi qui me ressemble. T'sais. Un peu la même chose pour Craven. C'est comme, j'adore ce qu'il fait, jamais je voudrais refaire des beats de Craven. C'est juste genre, yo, man, tu fais 1000 beats par année. Faut que j'essaye de faire au moins 600 beats par année, tu sais.
Ouais, c'est clair.
Puis c'est comme Chab qui est comme, OK, man, j'étais allé chercher du prog, puis j'ai fait du hip-hop avec. Je suis comme, OK, this is my guy, là. C'est quand on est plus, moi, à l'école, que je peux pas porter des Jordan pour faire du skate, tu sais.
Exact.
Les gens qui ont comme le vocabulaire qui va partout, qui l'utilise. Puis c'est ça que je ressens, en fait, de ces gars-là. Puis je communique avec eux vraiment sous la forme d'un étudiant, d'un supporteur, puis d'un collaborateur éventuel, tu sais.
Ouais.
C'est-à-dire, tu as besoin de mon aide, je suis là, tu sais. Puis honnêtement, même dernièrement, j'ai fait une pochette pour la playlist de White Sox, puis c'est... Non, c'en est un autre, tu sais, puis c'est un gars qui est hyper...
Lui, il est pointilleux.
Il est hyper pointilleux, puis tu vois, c'en est un, là, que... You know what? Probablement qu'il fuck pas avec mes raps, tu sais, mais je sais que d'un être humain à un autre, ce gars-là, moi, j'ai un respect pour lui incroyable. J'ai acheté son shirt de Equanimitas, puis j'y ai dit, comme, dude, t'as vraiment sorti quelque chose quand tu parlais que t'as sorti un des meilleurs albums de hip-hop avant qu'il sorte, que tu sors de la radio et comme que t'es curateur, etc. Ça peut sonner petty, mais Chris, t'as raison. You did it. Il a l'oreille. C'est un excellent curateur. T'sais.
Surtout que son émission, putain, genre, il l'a fait depuis des années et des années et des années.
C'est insane, là. Puis c'est ça. Tu vois, en allant chercher le shirt, t'es là, je vais te faire une critique de tes rap et tout. Puis tu sais, je pense qu'il sait que je fais pas ça pour que lui, il m'aime. Puis ouais, j'achète son shirt, comme j'y ai dit, là, yo, je pourrais te taper ses nerfs que je te l'achèterais pareil, ton shirt.
Ouais.
Pour moi, ce que tu fais est important. T'as besoin de briller, puis c'est ça. L'idée, c'est que j'ai pas le désir que les gens que je supporte m'aiment. C'est vraiment, tu dois briller. Les gens méritent de connaître qui t'es. Après, like me or dislike me, je vais supporter ton art, t'sais.
Bien sûr, bien sûr.
Puis c'est ça. Je pense que c'est juste sain que ce soit comme ça, t'sais.
OK. Donc là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour 2025? Là tu m'as donné une exclue là tout à l'heure. T'as dit que t'as fini un album collaboratif.
Ouais, c'est ça. Il y en a une couple.
Il y en a une couple?
Ouais.
God damn, bro.
Dusty. Il y a Frenchie Blanco. Qui, légende aussi, là. Gros shout-out à Frenchie. Ça, je peux pas trop parler, mais les noms sont insane. Il y a définitivement des collabs avec Saint encore.
Super.
Là, j'aimerais ça. Là, j'ai changé un peu mon setup. Je commence à ramener plus mes instruments dans mes beats. Parce que tu vois, avec 730, il y a le track Watch Me.
Ouais.
C'est No Samples, c'est moi qui joue. Il y a le track Crabe des Neiges de Flower sur Octobre. Ça, c'est des tracks qui ont pas de samples. Puis c'est comme, j'ai envie de fuck around, puis de... j'ai envie de revenir là, avec ça, là, genre... Ça m'a pris du temps pour moi, c'était des gros break-ups, là, avant la pandémie, de perdre toutes mes bandes, puis c'est comme... C'était un peu masturbatoire pour moi de jouer de la guide, genre. C'était comme, ça a arrêté d'être mon moteur créatif pendant un bon bout. Puis je pense que là, j'ai une approche quand même saine avec l'instrument, puis...
Même tu redécouvres la guitare et tu l'amènes dans un nouvel...
C'est une autre approche, exact.
Exact, c'est ça. Cool.
Dans Craft, oui, il y a les raps, mais il y a beaucoup un retour au chant aussi. Donc, il va y avoir du focaillage avec les genres, avec l'esthétisme, puis... c'est ça. Il y a plusieurs projets là, dans le four, là.
Cool. Cite-moi un album de rock que t'aimes. Vraiment un album que t'aimes, que t'adores, genre. Un album de rock. Mais tu sais, dans la nébuleuse rock, fait, genre, tu peux me sortir, par exemple, un album de rock, un album de punk, ou... tu sais, juste pour mettre deux, trois noms sur le personnage, tu sais.
OK, Ben, juste un.
Moi, j'adore
genre...
faire des tops hein, dans 11MTL avec J7, puis le 11 là, nous, okay. Genre, on fait des tops. Hein. Moi, je fais des tops tout seul dans ma tête.
Mais tu sais, je t'ai dit avant qu'on commence, ouais. J'étais beaucoup sur les Trinités. Là. Moi, j'ai focusé, tu vois, genre, je vais te donner un exemple de Trinité. Swans. Donc, The Seer, To Be Kind, puis Glowing Man. Pour moi, c'est un triptyque.
Okay.
Après ça, tu vas avoir Lodger, Heroes, puis Low de Bowie. Tu vas avoir Blonde on Blonde, Highway 61, puis je sais pas moi, Blood on the Tracks de Dylan. Après ça, tu sais, tu vas avoir... Je fonctionne beaucoup, j'ai fonctionné beaucoup comme ça.
Okay.
Murray Street, Daydream Nation, puis Sister de Sonic Youth. C'est vraiment, il y a des triptyques puis des suites d'idées.
Putain, moi j'adore Washing Machine.
Ouais, Washing Machine, c'est insane. Mais
c'est incroyable.
Tu sais, pour moi, tu me demandes de te parler, genre les quatre premiers Sabbath, c'est intouchable.
Les quatre premiers Led Zepp aussi.
Les quatre premiers Led Zepp. J'ai un peu plus de misère avec la voix de Robert Plant.
Ouais.
Mais oui, effectivement, tu vois, c'est... je peux aller autant, c'est ça, Led Zepp, Amnesiac de Radiohead, In Rainbows. Je vais aller après ça, My Bloody Valentine, après...
My Bloody Valentine, c'était un band que j'avais dans la tête tantôt, mais j'avais oublié le nom, mais je pressentais que c'était une influence pour toi.
Moi,
c'est quelque chose que j'aime énormément
définitivement.
Aussi. Puis tout ce qui a découlé maintenant avec Brian Johnston, Massacre aussi. Puis,
100%, 100%.
Incroyable, 100%. Incroyable.
Tu vois, c'est au début, là, début de moi qui ai un MPC, ce que je voulais faire, c'est du shoegaze et du boom bap.
Tellement.
Puis c'est vraiment comme, tu sais, mettons, Dalek.
Ouais. Oh oui, Dalek. Aussi.
Dalek, c'est quelque chose qui me fait capoter.
Dalek.
Clouded. Donc, il est un band 2001 Cincinnati. C'est un petit C, puis Loud Dead. Moi, j'appelais ça Cloud Dead, mais c'est Clouded.
J'ai un pote à Montréal qui est fan de Dalek, mais fan de Dalek, genre.
Ouais, c'est insane, là. Ouais, ouais. C'est justement... En fait, ce qui fait que je stick to hip-hop, c'est à quel point tu peux aller chercher de tout, man, de tout, là. J'ai fait une séquence de beat boom-bap avec du Death Heaven.
Ouais.
Puis c'est vraiment... de mélanger, puis tu sais, l'idée, c'est justement l'approche d'aller chercher des sonorités, de flipper des samples sans se dire ah, est-ce que cette suite d'accords-là a été faite, je voudrais écrire comme un peu un songwriter. En fait, je fais juste un paysage où est-ce que je peux aller explorer, ou un paysage où est-ce que quelqu'un d'autre peut aller explorer.
Ouais. Il y a un album, je ne sais pas s'il en a fait un ou deux, mais Craven a fait, je pense, un ou deux albums avec des voix, en fait, de Françoise Hardy.
Ouais,
j'ai trouvé incroyable. C'est genre, je lui ai dit,
débile mental.
C'est ça. Puis quand je l'ai rencontré, genre, je lui ai dit, c'est incroyable, ça, man. C'est magnifique. Ça s'écoute, mais alors... bon, bien sûr, c'est pas sur les plateformes, c'est que sur Bandcamp.
Ouais, non, mais il les a partagés quand elle est décédée, là, récemment.
Ouais, mais c'est magnifique, ça.
Ouais,
non,
c'est fou, raide.
Ça, c'est le genre d'initiative que j'aime, tu vois.
Ouais, mais tu vois, c'est le genre de truc qui m'a inspiré le tape que j'ai sorti de Breaking Doom.
Ouais.
Donc, c'était vraiment des a cappella d'MF Doom avec des off-voice dialogues de Breaking Bad. Puis j'adore que Craven, moins là, parce que je veux dire, il produit du gros Chris de stock puis des albums qui sont en train de changer l'histoire du hip-hop en ce moment. Là.
Ouais.
Mais pour moi, tu sais, genre, il y a Dead Soul 1 puis 2, c'est là que j'ai découvert Jimmy D aussi, de mémoire. Là. Mais tu vois, c'est du gros stock là, de juste aller. Justement, je suis en train d'explorer. Man. C'est ce que j'aime. C'est pas comme je veux vendre. Ça va venir parce qu'il a son identité. Oui, effectivement.
Est-ce que t'as un ou deux albums métal de cœur? Et puis va finir là-dessus.
Sunbather de Death Heaven. Puis Transylvanian Hunger de Death Throne, je pense.
Ouais, ouais, Death Throne, ouais.
Ça, c'est... J'aimerais tellement ça. En fait, il y a un de mes bons potes qui a son projet solo de métal, Bronzhomme, qui fait... C'est du bedroom black metal, là, puis c'est comme... J'ai essayé de participer avec lui. Je suis fucking pas capable de jouer du métal à Git, là. Comme le plus métal que j'ai été, c'était avec Look Sacré. Là.
OK, ouais. Il y a un super documentaire, je te l'enverrai, qui avait été fait à l'époque par Noisy, fait que la branche musicale en fait de Vice, ils avaient fait bleu blanc métal. Attends, non, bleu blanc métal, c'est sur le black metal en France, mais one man's band. Et en fait, c'est un documentaire sur un artiste américain qui a un one-man band black metal. Très connu, j'ai oublié le nom, mais bon, en tout cas, puis, c'est un gars, il fait tout seul, quoi. Mais genre, il est devenu Léviathan, je pense, ça s'appelle. Bon, en tout cas, c'est légendaire, genre, je te l'enverrai. C'est okay. Vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique comme documentaire.
Puis, pour finir sur le métal, par contre, il faut que je fasse un shout-out à Via Crucis et à Givre. Que c'est du métal d'ici,
ouais.
Black metal ou black and death metal, incroyable.
Ouais.
Tous les gens qui sont là-dessus, là, ça, c'est, je pense que ça va être gros dans le paysage métal.
Ouais. Ben, man, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, que tu voudrais rajouter dans ce podcast.
Écoute, non, à part merci pour l'invitation.
Ouais, merci à toi.
Gros shout-out à tous les gens qui supportent ce que je fais. Gros shout-out aux gens qui ont inspiré ce que je fais. Merci de porter l'attention que vous portez. C'est vraiment, vraiment apprécié.
Merci d'être venu dans le podcast.
Merci à toi.
Yes.